ce que Thème vient de me rappeler dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il nous aime. Et cela crée dans notre cœur, dans notre vie, quelque chose qui est irrésistible. Quelque sorte l'appel de l'amour. Et dans la deuxième partie, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu et peut-être vous encourager à dédier peut-être plus de temps chaque jour à notre Dieu qui nous aime tant. Le sujet, je le traiterai avec beaucoup de prudence et d'humilité parce que je sais qu'ici dans la salle, il y a des frères, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui ont une intimité avec notre Dieu tellement plus personnelle et plus intense et plus intime que moi. Je voudrais qu'on s'encourage quand même à vraiment rechercher cette relation avec ce Dieu qui d'abord, lui, cherche la relation avec nous. Vous pouvez dire, Dieu habite en moi. Par l'Esprit, l'Esprit du Christ aussi est en moi, vit en moi. L'apôtre Paul le dit, vit en moi, Christ vit en moi. Et on pourrait se dire que voilà, mon quotidien, du matin jusqu'au soir, c'est ma relation avec Dieu ainsi, puisque Dieu est en moi. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne idée ou une bonne habitude que de, à un moment donné dans la journée, ou deux ou trois fois, vous stopper, de passer un moment avec Dieu? Mais c'est ce qui m'a marqué en réfléchissant à ce thème, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, oui, il était avec son Dieu, simplement. Eh bien, par exemple, dans l'évangile de Jean, de Matthieu, au chapitre 14, nous lisons au verset 23, « Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. » Un peu plus loin, dans l'évangile selon Luc, on va le retrouver une nuit en prière sur une montagne. Et le lendemain, il choisit ses 12 disciples. Une nuit de prière. Donc celui qui avait Dieu dans sa vie, puisqu'il est Dieu lui-même, passait des moments où il stoppait tout, ses relations, on avait tellement de choses à faire, pour passer du temps, entretenir un temps de qualité avec son Dieu. Et quand les disciples ont demandé au Seigneur, mais enseigne-moi à prier, ou voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce sermon sur la montagne, dans le texte que vous avez là à l'écran? Et quand tu pries, entre dans ta chambre, et après avoir fermé la porte, prie ton Père, qui demeure dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Ah oui, il encourage de dédier un moment à une relation avec Dieu. Et je voudrais insister sur ce que Étienne a dit. C'est une relation avec quelqu'un qui a un cœur de père. Quelqu'un qui souhaite désire ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on lit dans le texte? Que trouve-t-on dans ce lieu particulier? Dieu est là. Il demeure là dans le lieu secret. Dieu, c'est ton Père qui demeure là dans le secret. Ce Père, dans le texte qui suit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ce Père est là. Ensuite, ton Père qui voit dans le secret, tu es là, il voit que tu es là, que tu es là devant lui, et il voit aussi ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Pour quelle raison tu es venu là? Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien à ton cœur. Et puis, ensuite, ton Père te récompensera. Alors, c'est intéressant de regarder et de voir ici la récompense. D'abord, comme on a vu tout à l'heure dans l'histoire de la lumière du Saint, la foi, la confiance dans la présence de Dieu, c'est d'abord accueillir. C'est une question de foi. Accueillir Dieu lui-même. Dieu se présente pour venir passer un moment avec nous et accueillir sa présence. Et c'est ainsi qu'on peut être assuré, quelle que soit ma situation, que celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Alors on a déjà la récompense de la présence même de Dieu. Il cherche ces moments-là. Et puis, la foi dans la récompense de Dieu, il nous encourage à persévérer, demander, vous recevrez. Il nous transforme dans ce moment-là par une sanctification personnelle, progressive. Il nous protège, il nous guérit intérieurement, sûrement, extérieurement, parfois. Mais en tout cas, il nous permet de ramener notre ferveur, et pour lui, et pour notre prochain. Quelle récompense! Alors, vous savez que le Seigneur est venu voir ses disciples qui n'avaient pas réussi à tenir le coup pendant quelques temps. Et il leur dit: mais vous n'avez plus veillé une heure avec moi. Et il les a priés, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, je vous propose une heure divisée en 12. Et ce n'est pas l'heure de, comme celle qui tourne ici, et qui tourne toujours trop vite. Ce n'est pas de cela. Mais simplement, si j'ai marqué l'heure qui change ma journée, c'est que passer un moment, la présence de notre Dieu, change réellement la journée pour moi. Oh, certainement pas les circonstances, mais la manière dont je vais vivre chaque moment de cette journée. C'est sûr qu'une heure avec des amis, avec des copains, ça passe très vite. Surfer sur Internet, bricoler pour ceux qui aiment ça, faire du jardinage, ça passe vite. Mais est-ce aussi évident ou moins évident de passer une heure ou un grand moment? Je ne parle pas de passer 5 minutes avec lui. Il n'y a pas longtemps, j'ai téléphoné à ma sœur, Geneviève d'Andrieux. Puis je demande des nouvelles et puis je m'apprêtais à raccrocher. Je dis: mais, et un peu en fait, tu m'appelles, j'aimerais passer un moment un peu plus loin avec toi. Alors est-ce que notre Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, c'est toujours pour une ou deux demandes et hop, on se relève et on pose une message? Alors, je voudrais qu'on s'encourage à, peut-être, nourrir ce moment que nous avons à cœur de passer dans la proximité de notre Dieu. Et je vais vous proposer une douzaine de possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant une heure dans la présence de notre Dieu? La première chose, adorer. Méditer. Compléter. Nourrir nos prières, ça va être un peu là-dessus. La protection de Dieu, on intercède, on a des demandes à faire, des remerciements. Chanter, oui, chanter. Oh, il y a tant de cantiques, de prières qu'on peut adresser à notre Dieu. Ou en inventer peut-être. Écouter, pas si simple. Attendre, pas si simple. Et quand on a passé un moment avec notre Dieu, comment est-ce qu'on peut terminer? Eh bien, par la louange, par l'adoration. Alors, je vous propose qu'on passe un peu de temps avec la parole de Dieu, justement pour découvrir un petit peu, enrichir ce moment que nous pouvons passer avec nous. Nous nous souvenons que le cœur de la prière, le cœur de ce moment dédié à Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est la source, il est le centre, il est le point de départ, le point d'arrivée de notre rencontre avec lui. Alors je vous propose, on commence ce moment d'adoration ensemble par la lecture de ce psaume 63. Il viendra devant notre Dieu. Et quand on ouvre la parole de Dieu, au psaume 63, on lit les psaumes de David quand il était dans le désert de Juda. Et bien, je vous propose que ce ne soit pas le psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Mais je vous propose, et je vais dire c'est le psaume de Philippe, parce que c'est mon prénom. Chacun de vous, on va regarder, lire un petit peu ce psaume. C'est le psaume de Philippe. Et Philippe, est-ce que je suis dans le désert? Oui, pas de Juda, mais dans le désert de ce monde. Qu'est-ce que cela va créer dans mon cœur? Me voilà maintenant, j'ai fermé la porte et je suis là dans la présence de celui que j'ai envie de rencontrer. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Je me permets quelques commentaires. C'est vrai, ce matin, j'étais vraiment dès le point du jour, près de toi, parce que j'avais cette réunion cet après-midi. Je n'avais pas envie de faire un discours, mais j'avais envie un petit peu de partager ce moment que j'ai eu avec toi ce matin. On a soif de toi. Ma chair longue après toi, dans une terre aride attirée sans eau. Donc, combien de fois, Seigneur, il faut. Non, c'est une prière que je suis obligé de te demander. J'ai vraiment soif de toi. Il y a des jours, c'est vrai, je peux te le dire comme c'est mon souvenir. Alors, pour voir ta force, ta gloire, ta puissance, ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le dessin, alors là, je me prosterne devant toi, devant ta grandeur. Et qu'est-ce que je découvre? Car ta bonté est meilleure que ma vie. Mes lèvres te loueront. Ainsi, je te bénirai durant ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom et mon âme est rassasiée. Qu'est-ce que je veux de plus? Rassasiée de ce qu'il y a de meilleur. Tu me donnes ça et ma bouche, elle ne peut pas rester fermée. Donc, ma Seigneur, elle s'ouvre avec des lèvres. Je chante de joie. La joie est entrée dans mon cœur maintenant. Ah, quand je me souviens de toi, sur mon lit, je m'élite. Je me souviens, même dans la nuit. Et tu étais mon secours au moment où je n'y attendais pas, mais c'est vraiment, tu as répondu, oui Seigneur, tu es mon secours, et à l'ombre de tes ailes, je chanterai les joies. Et mon âme s'attache à toi. Quelqu'un a appelé ça la blessure de l'amour, c'est-à-dire que tu ne peux plus se quitter, on ne peut plus se quitter. Voilà le psaume, c'est mon psaume. Et on peut comprendre que quand on découvre qu'il est notre Dieu, c'est vraiment la locomotive de la prière de ce moment dédié à notre Dieu. Alors voilà, je suis là-dedans, dans la découverte de ta mère des lieux. L'adoration, c'est servir, c'est rendre culte, c'est se prosterner, c'est devant la grandeur, c'est dire du bien, bénir, dire du bien de celui qui m'a mis. De reconnaître la supériorité. Et puis, on découvre là tous les attributs de Dieu. Certains vont dire, il y en a 5 ou 6, omniprésence, etc. Mais regardez dans la Bible les caractères, les attributs de Dieu. Il y en a 1100. Quand vous voyez la fidélité de Dieu, quand vous voyez, par exemple, cette vie qui nous donne, vous pouvez découvrir qu'il est ce rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est le Dieu de paix, il est le Dieu de la joie, le Dieu bienheureux, et tout cela. Et chaque jour peut-être décliner, découvrir un moment ce qu'il est, le découvrir et prosterner devant lui la redoute de la prière, la saisie, la gloire de Dieu. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. C'est bien ce que le Seigneur nous apprend dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. N'est-ce pas ce qu'on apprend dans la prière du Notre Père, et puis tant d'autres prières. Dans la maison, chapitre 1 de Néhémie, vous verrez comment il connaît son Dieu, comment il en parle de sa grandeur et de son éternité. Oui, l'adoration, c'est la locomotive de notre prière. Deuxièmement, nourrir nos prières. Saviez-vous que la Bible était un recueil de prières? Voilà. Plus de 650, il y en a qui ont compté, 653 prières. Eh bien, c'est important de commencer à prier avec la Bible. Peut-être que ça vous étonne, mais vous allez voir. Et peut-être que tout à l'heure, quand on vient de lire ce psaume 523, on vient de prier avec la Bible. Et en ce sens, pas. C'est intéressant de pouvoir lire des textes comme par exemple dans le psaume 16. On va lire ce texte et je le lis, ce texte, par exemple au verset 8. Je me suis toujours proposé, ou constamment proposé l'Éternel devant moi. Seigneur, est-ce que je me propose souvent l'éternité devant toi? Est-ce que je peux dire toujours? Alors Seigneur, aide-moi à rechercher cela. Parce que il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Parce que le fait d'être collé à toi, attaché à toi, tu ne seras pas ébranlé. Alors Seigneur, oui, je vais dire cela. Quand tu feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite, dans ta main droite, pour toujours. Le plaisir de mon cœur, je peux prier avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous dire, attention, ne pas confondre prier avec la Bible et étudier la Bible. Étudier la Bible, c'est très important. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, ça nous permet de voir ce que Dieu a écrire en fonction d'un arrière-plan, avec un but particulier, avec un auteur particulier, avec une période particulière. Et l'Ancien Testament, Dieu se révèle d'une certaine manière, dans le Nouveau Testament d'une autre manière, et avec les Écritures d'une autre manière, progressivement Dieu se révèle. Et quand on veut enseigner la parole de Dieu, il faut l'étudier, la parole de Dieu. Mais je vais vous dire, ça m'est arrivé de travailler beaucoup la parole de Dieu, des jours et des jours, et des heures, pour écrire des textes, et finalement d'être sec dans ma relation avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors que là, quand on prend la parole de Dieu, et que je lis la parole de Dieu, que ma foi est en action dans la lecture que je suis en train de faire, que c'est moi qui vis ce qui est écrit, alors cela nourrit, et c'est autre chose. Et un texte peut me nourrir. Quand vous avez, par exemple, au calendrier de la bonne semence, vous n'allez pas chercher ce qu'il y a dans le contexte. Mais tout d'un coup, vous avez un passage qui vous a non seulement parlé, mais a fait quelque chose de très fort à l'intérieur de votre être. C'est quoi? C'est parce que tout d'un coup, vous avez quelque chose dans votre tête là qui passe. Non, c'est parce que cette parole est vivante. Et cette parole est opérante. Et elle est en train de travailler dans votre cœur. De faire vivre votre intimité avec Dieu. Il faut aussi cela. Si on n'a pas cela, alors à ce moment-là, on est des théoriciens, des théologiens, selon eux. Mais de faire sans être vu. Alors c'est important ici de nourrir donc, ce moment de prière avec la parole de Dieu. C'est tellement important cela. Et je voudrais peut-être, même si je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous voyez, vous pourrez refaire ça à la maison. ce texte de Colossiens. Ah oui, tu veux me dire quelque chose. Voilà, quand on étudie la Bible, le risque, et même pour chacun de nous ici, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de difficultés dans notre intimité avec Dieu. Vous posez la question, est-ce que ma foi, elle est en dehors de moi, ou est-ce qu'elle est en moi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tout ce qui est vécu dans la Bible, je le crois? Oui, je le crois. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés. Je crois ce que Dieu dit, etc. Et puis, vous n'êtes pas étonné que souvent, ça ne fait rien. Rien ne se passe dans votre vie. Vous avez lu des textes? Ah oui, ça, je le crois. Et rien n'a changé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez là une foi en dehors de vous. Quand elle est en dedans, en moi, elle crée immédiatement une modification dans vos sentiments, dans vos pensées et immédiatement dans vos actions. Parce que l'apôtre Jacques, quand il raconte que la foi sans les œuvres, eh bien c'est rien du tout, elle est morte, eh bien oui, c'est une foi extérieure à vous. La foi qui est réellement en moi amène des mouvements, un changement de vie, un changement de relation avec le monde, mais avec le Dieu. C'est là la grande question. Et quand vous prenez, par exemple, des livres Colossiens, je n'ai pas le temps de rentrer dans le livre, mais regardez ces versets qui sont ici. Nous ne cessons de prier et de demander pour vous. Quelquefois, vous êtes avec un frère, avec une sœur, et puis vous la voyez un peu découragée ou autre, et puis elle va vous dire prie pour moi. Vous en pensez? Il manque pas quelque chose là? Mais qu'est-ce qu'il faut que je demande? Je me demande pour toi, il prie pour moi. Et bien, par exemple, je vous propose de avec cette épître pour vous. Et voilà ce que je propose. Peut-être demander au Seigneur que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté. C'est-à-dire que vous ayez une perception juste du plan que Dieu a pour vous. Vous êtes à choisir ce qui est important, ce qui est édifiant, ce qui est juste, que vous puissiez établir de bonnes priorités dans votre vie. Et en toute sagesse et intelligence. On a parlé avant-hier de la sagesse d'en haut qui est pure, etc. Et bien, je vous prie, le Seigneur, maintenant pour vous, pour vous donner cette sagesse-là, cette intelligence spirituelle qui vont vous faire faire les bons choix. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur, d'une manière digne du Seigneur pour les faire à l'univers. Et quand vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que dans la suite du chapitre, il est parlé de la grandeur de notre Seigneur. Il est le premier-né de la première création, le plus grand. Il est le premier-né de la seconde création, l'initiateur, celui qui est à l'origine de la seconde création, lui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est le premier-né pour nous, croyants. Et nous découvrons que Dieu lui a donné la première place. Ça fait qu'il est la première place. Et qu'il a marché d'une manière digne du Seigneur. C'est-à-dire d'être impressionné par cette place de notre Seigneur, ouais, j'accompagne. Je suis le contact, je suis le compagnon de celui qui est le plus grand. Et je marche sur la prière, et j'ai les clés, et je recherche ce qui me plaît, ce qui est agréable. Vous voyez, je prie le Seigneur pour cela, pour vous. Et puis, on pourrait continuer, mais voilà, croissant par la connaissance de Dieu. Croître par la connaissance de Dieu. Mais ça fait tellement aide mes frères et mes sœurs à prendre du temps, un temps de qualité avec toi chaque jour, pour découvrir les merveilles et richesses de notre Dieu, les projets extraordinaires de notre Dieu. Vous voyez comment on peut prier avec la Bible et pour soi-même, chacun, quand il dit ce texte, il est vraiment pour lui. Pas seulement pour le potentiel, soit en dehors de soi, soit en nous. Alors, voilà ce que le frère Andrew Murray a dit. un peu de parole de Dieu, plus un peu de prière, c'est la mort de la vie spirituelle. Il écrit aussi beaucoup de paroles de Dieu et un peu de prière, c'est une vie atrophiée. Un peu de paroles de Dieu, beaucoup de prière, c'est plus de vie, mais sans stabilité. Beaucoup de paroles de Dieu et beaucoup de prière, c'est une vie équilibrée, c'est une vie puissante, une vie victorieuse. Est-ce que ce n'est pas cela que nous désirons tous? Oui, introduire la parole de Dieu dans nos prières, c'est introduire directement la puissance de Dieu, qui est tout en mouvement dans ma propre vie. On va aller un petit peu plus vite, avec quelques autres... on peut, voilà, comment nous entretenir ce moment avec notre vie, la confession. Après, que plusieurs aussi se posent la question, mais vous n'avez pas commencé par cette année. Et puis, avant de pouvoir se retenir, si vous êtes prêts. C'est vrai que le péché, vous voyez, tant que je faisais ma faute, mes ondes étaient, ça rend malade. Pas seulement le côté spirituel, mais bien des maladies physiques sont le résultat de choses non confessées. L'importance de ne pas repousser à demain ce que nous avons confessé. Par exemple, je rougissais tous les jours, car jour et nuit, ta main s'appelait sur moi. L'intérieur s'est changé en une sécheresse d'été. La fin de ce psaume 32, c'est « Réjouissez-vous en l'Éternel, vous qui êtes droit du cœur, et la confession rend la santé. » La chose, c'est vrai que si j'avais regardé mon cœur dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Donc c'est vrai que c'est important de dire à Dieu, de parler à Dieu de ce qui est notre vie. Voilà, cependant Dieu m'a écouté, il a fait mais une fois que si la foi rejetée ma prière m'y retrie avec moi, sa bonté. Je crois que c'est important de reconnaître qui nous sommes. Je crois que notre Dieu sait très bien ce que nous avons à confesser. Il n'ignore pas nos fautes. Il ne nous demande même pas d'avouer. Mais il sait que nous avons besoin de confesser nos péchés, de reconnaître que nous l'avons déshonoré, pour pouvoir mettre en route un processus de sanctification du temple de Dieu, du Saint-Esprit que nous sommes. Il sait que c'est important. Et quelqu'un qui confesse va être aussi par la transformation de sa vie, quelqu'un qui va encourager d'autres à faire de même. Et c'est certainement un vrai réveil spirituel. Alors voilà, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Voilà, là nous avons c'est beaucoup plus actuel pour nous. Entendre cela et cette protection de Dieu dont nous avons besoin. Alors veillez et priez, veillez pour prier, afin que vous n'entriez pas en tentation, pour ne pas céder à mon secours bien auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les chrétiens éveillés et conscients des dangers et se mettent sous la protection de Dieu. Mais Dieu ne s'attend de nous décourager, de nous distraire. Voilà, il est important pour nous de savoir et de croire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous, même s'il peut nous décourager de passer du temps dans la prière. Rappelons-nous que la victoire, notre victoire, qui a vaincu le monde, c'est notre foi, cette confiance inébranlable dans celui qui est le plus grand dans notre Seigneur. L'intercession, alors, voilà. Ça, nous prions beaucoup pour les autres. J'exhorte avant toute chose, à Timothée 2, à faire des supplications, des intercessions pour tous les hommes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'intercéder, ça veut dire venir entre deux. Et voilà, il y a quelqu'un là qui est à côté de moi qui a besoin du secours du Seigneur. Et je vais venir là un peu comme le médiateur, comme celui qui s'interpose et qui va intercéder. Demandez des requêtes. Est-ce que vous saviez que prière et précarité, c'est la même étymologie, mendier. On trouve tout cela de la même manière. Qu'est-ce qui caractérise ces deux hommes que vous avez en photo? Ils sont là sur le bord du chemin. Il y en a un qui demande, qui dit j'ai faim. Il est conscient de son impuissance, de sa précarité. Il ne peut pas résoudre son problème tout seul. Et il fait appel à un généreux donateur. Qui viendra? Qui ne viendra pas? La prière. On demande parce qu'on ne peut pas résoudre tout seul son problème. Mais la différence de ces deux hommes qui m'ont dit sur le trottoir, nous avons quelqu'un à qui nous parlons et que nous connaissons, qui a la puissance, qui a cette fidélité et cette tendresse pour répondre à notre demande. C'est pour ça que c'est important que Dieu nous parle de celui qui est prêt à s'approcher de nous. Voilà, demandez. Mais, et vous recevrez, c'est le verset de Jean que nous avons lu tout à l'heure, mais ce verset, bien sûr, vient à notre esprit de vous inquiéter de rien, mais en toute chose exposée. Est-ce que vous vous êtes écouté dans vos prières? Est-ce qu'on expose nos requêtes ou est-ce qu'on donne les ordres à Dieu? Et c'est vrai qu'on peut dire à Dieu tout ce qu'on ressent. Je crois que vraiment, il est important de prendre conscience qu'on s'adresse à celui qui peut donner, mais qui, dans sa sagesse, donne ce qui est le meilleur. Et alors, quand on se met vraiment dans la vie, dans l'intimité de ce texte, vraiment la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence dans le sens de toutes les combines qu'on peut faire pour résoudre son problème, cette paix garde mon cœur, où ça, mes pensées, où ça, dans le Christ. Dans celui qui a donné sa vie pour moi. Et cela nous amène à la reconnaissance, à l'action de grâce. Et on doit s'encourager à nous. J'étais très étonné, à La Rochelle, il y avait un mendiant. Il était là. Chaque personne qui passait, qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas, alors, je disais, merci et bonne journée. Même si les gens ne venaient pas, et les gens retournaient, comme un masque mondeur. Merci. Et ça veut dire, encore une fois, nos demandes, oui, nous les demandons avec notre cœur, mais est-ce que nous pensons à dire merci à notre Dieu, de remercier? Et là, je voudrais qu'on lise encore ce texte, non pas comme le texte de quelqu'un, mais je dis, c'est fini, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son nom. Mon âme et mon âme, moi, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de général, mais c'est quelque chose qui est pour moi ça. Et cela m'aide à me concentrer de la fidélité de mon Dieu qui m'aime tant. Alors, on pourrait se dire, je voudrais juste dire ici, que l'attitude de gratitude et de contentement est un trésor inépuisable. J'ai ajouté ceci, après avoir lu un livre qui s'appelle « Choisis la reconnaissance », mais n'est pas une option, c'est vital, et cela nous transforme. Mais le problème qui se pose, je vais aller plus vite parce que je vois que l'heure est bien avancée, quel genre de bénédiction attendons-nous? Alors c'est vrai que souvent le problème pour nous, c'est qu'on a une difficulté visible, tangible, et c'est celle-là qu'on aimerait qu'elle soit changée. Donc, bien sûr, les bénédictions physiques, c'est pas la caractéristique du chrétien, puisque il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir aussi des guérisons, non-croyants, un salaire à la fin du mois, etc. Et je crois que notre attitude, même les choses matérielles, notre attitude de reconnaissance pour ce que Dieu nous donne, et recevoir de la part de Dieu. Et puis il y a aussi, et c'est sûr tout cela veut dire, c'est bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est l'exclusivité des enfants de Dieu. Voilà, je suis là dans ma détresse, je suis là en train de, voilà, d'être au pied de mon Dieu. Et quelquefois, ce n'est pas comme Job, ses enfants qui sont rendus. Mais maintenant, mon Dieu t'a vu. C'est ça qui a transformé la suite de ta vie. Et nous avons le privilège d'avoir des yeux particuliers, nous les chrétiens. Les yeux de notre cœur peuvent être éclairés. Donc j'ai découvert qui je suis. Je suis béni. Je suis Dieu. Alors, on n'a pas le temps, mais vous voyez chanter, c'est aussi l'occasion d'exprimer à notre Dieu dans ce moment de se dédier pour lui ce qu'il y a au fond de notre cœur et de communiquer un triomphe, un chant de triomphe de louange. Au Colossiens 3, c'est chantant de vos cœurs avec un esprit de grâce, servez l'Éternel, etc. Et il chante un cantique nouveau, tu es dit. On s'arrête un petit moment sur la méditation, l'attente et l'écoute. Vous voyez, méditer, ça veut dire s'occuper d'eux, se concentrer sur, ça veut dire aussi réfléchir longuement, hein, pour porter du fruit. Et bien, méditer, c'est ça. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous fera grandir. Vous voyez, je viens avec la prière, on va découvrir le cœur de Dieu, ce cœur de terre, et on va pouvoir exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, en fonction de ce que nous avons découvert de sa personne. Et l'apôtre qui disait à Timothée, occupe-toi de ces choses, ça voulait dire, médite sur ces choses. Alors sur Dieu lui-même, la parole de Dieu, j'ai plus trop de temps, donc voilà, on va entrer là-dedans. Mais il faut réfléchir, c'est méditer, hein, se remémorer. Donc, soit avec l'écriture dans nous, soit ce que nous avons appris de l'écriture. C'est pour ça que j'encourage toujours, et Dieu en avait beaucoup, la parole de Dieu. L'attente. Quelque chose qui n'est pas bien naturel pour l'homme, pour l'humain. Eh bien, c'est important. Toi, mon âme, dans le psaume 62. Mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente, c'est mon espérance, et est en lui. Le temps de Dieu, c'est pas mon temps à moi. Et le matin, je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai. Ah, quel exemple de laboureur attend, le fruit précieux de la terre, prenant patience, et les disciples qui sont bien plus qualifiés que moi pour parler de cela. Mais vous aussi, usez de patience, chaque fin de vie, à fermer vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Voilà, à tout. Exposer ses requêtes, attendre. Et il y a Daniel qui est un exemple assez intéressant, c'est qu'il a dû attendre 3 semaines avant d'avoir une réponse. Et pourtant, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. 3 semaines, attendre 3 semaines. Voilà. Attendre le temps de Dieu, parce que l'épreuve de votre foi, eh bien, produit du fruit pour Dieu. Ensuite, l'écoute. Ah, l'écoute, parce qu'on maintenant, toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est écouter Dieu. Dieu parle. Oui. Alors prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Approche-toi pour entendre. La maison de Dieu, c'est ce moment dédié que je cherche avec Dieu pour entendre. En tout cas, dans notre texte, attention, ne vous faisiez pas écouter celui-ci. parle d'en haut, Dieu peut nous parler de différentes manières. Parfois sévère, quelquefois au contraire, d'une manière très douce, parce qu'on a besoin de tendresse, de Dieu de tendresse. Et si quelqu'un entend ma voix, c'est merveilleux d'écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il nous promet? Eh bien, il ouvre la porte, et si j'ouvre la porte de mon cœur, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi, et la communauté est établie. Alors, est-ce que nous sommes là dans cet épisode de ce psalmiste au psaume 143, et qu'ils vont entendre dès le matin ta bonté, leur envoyer une attention. Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher, car c'est à toi que j'élève mon âme. Écouter pour discerner nos besoins, pour entendre la réponse de Dieu. Ah oui, je pense qu'il ne nous a pas répondu ce qu'on a écouté. Écouter pour connaître notre chemin, pour connaître le chemin de notre vie. Et là, on gagne du temps en écoutant, parce qu'on prend le bon chemin. Alors que si on n'écoute pas, eh bien on continue, quelquefois longtemps dans un mauvais chemin. Et on a perdu tant de temps. Écouter, ce n'est pas le temps plus. Alors, ça se termine par la joie et la paix de ce moment passé avec Dieu. Et ça amène une envie d'offrir toute notre vie à notre Dieu, toute ma journée, puisque j'ai parlé ici d'une heure qui transforme ma journée. Oui, être là au service de mon Dieu. Alors, venez un petit peu pour qu'est-ce qu'on peut faire pendant une heure avec Dieu. Vous avez quelques idées. Je vais conclure avec relativement rapidement, pas de défi. Parce que voilà, j'ai fait comme ça, alors je vais vous l'expliquer. Il y a quelques années, j'ai suivi un séminaire sur la prière. Et c'est vrai que la semaine qui a suivi, j'ai pu passer du temps dans la prière. Et puis je me suis rendu compte que tellement à faire, tellement à faire. Et petit à petit, c'est tué. Alors c'est ça, c'est le problème du manque de temps. Mais je veux dire quelque chose. Je veux dire pour les plus jeunes. L'arrivée d'Internet, de Facebook, de Twitter, m'amène à affirmer que le manque de temps pour prier n'est pas dû à un manque de temps. Ça, c'est la première des découvertes. La deuxième chose, on peut dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un mourir de faim parce qu'il n'avait pas le temps de manger. Et on essaie de telle sorte que, pour justement, ce fait de vouloir survivre, c'est que de toute façon, on trouvera un moment pour manger. La question, pourquoi on n'a pas le temps de passer ce moment avec notre Dieu? C'est une question de priorité. Vous voyez juste le verset pour dire qu'il n'y a personne qui est quitté, disons, etc., pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoit 100 fois autant maintenant, 100 fois autant, etc., pour la haine et pour l'avenir dans le siècle à qui vient la vie. Donc, ce n'est pas une perte de temps que de dédier un moment pour notre Dieu chaque jour, c'est au contraire un investissement. Chaque jour. Et puis ensuite, pardon, je voudrais juste noter que Luther a dit « Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que je dois d'abord consacrer 2 à 3 heures dans la prière. » Alors peut-être que les plus jeunes vont dire c'est bon pour les retraités. Mais ce n'est pas le problème du temps, vous avez bien compris. C'est quand même tout arrêté pour notre Dieu. Et on y revient. Suffit-il de prier en travaillant ou en faisant une activité habituelle? C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps dans nos activités et on peut effectivement vivre chaque moment avec notre Dieu. Mais vous ne croyez pas quand même qu'il est difficile de rester dans cette intimité avec notre Dieu et dans notre esprit. Il faut bien faire nos obligations qui demandent beaucoup d'attention, etc. Alors oui, c'est possible. Une raison pour laquelle, comme on l'a vu dès le début, dans sa maison, alors le dernier verset dans Matthieu, on l'a vu tout à l'heure, mais celui de Daniel m'a quand même beaucoup intéressé. Parce que Daniel n'était pas un inactif. Hein, c'était un premier ministre, comme vous voudrez. Eh bien, il va dans sa maison, dans sa chambre, trois fois par jour, il s'agenouille sur ses genoux, et prier, et rendre grâce devant son Dieu, comme il l'avait fait auparavant. Là, il est dans un moment de détresse, de difficulté, mais comme il l'avait fait auparavant, il n'attendait pas de dur pour se mettre à dédier lui trois moments dans la journée de son Dieu. Alors, je prie que quand je me sens poussé, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Eh bien, la réponse de la Bible, au Luc 18, c'est le Seigneur qui dit qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Alors, est-ce qu'on ne se sent pas touché? Alors, si j'ai une minute encore, j'ai juste le témoignage d'une sœur, ici, que j'ai notée. Voilà, une chrétienne foragée, dévouée à l'œuvre du Seigneur, et d'une authentique piété, témoignée de moi, il me faut du temps quand je me recueille le matin. Oui, il me faut du temps avant de me trouver vraiment dans la présence du Seigneur. Je veux dire, du temps pour que mes pensées se disciplinent et se portent uniquement sur la personne de mon Seigneur. Du temps encore pour que je sois dans un paisible abandon devant lui. Voilà cette pensée qui nous trouve très belle et qui nous encourage. Non, ça ne vient pas comme ça tout seul. Mais je crois vraiment que cela nécessite une discipline. Je dis que le Seigneur peut nous donner le défi, la persévérance et la régularité. Encore une question qu'on pourrait se poser, si je suis un homme libre, je ne dois pas me laisser enfermer dans les contraintes. On entend ça. Alors qu'est-ce que va répondre à la Bible? Elle a une réponse à ça. Là où est l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. C'est quoi la liberté? On nous en a parlé. Et moi je vais le définir simplement comme ceci. C'est la capacité que nous avons de pouvoir choisir de rompre avec les mauvaises pensées, avec les mauvaises habitudes. Peut-être passer quelques journées sans prier et avoir cette capacité de choisir les bons liens, c'est-à-dire mon attachement avec mon Dieu et changer les nouvelles habitudes. La tentation de la continuité, c'est quoi ça? J'ai péché. Je ne peux pas me présenter devant Dieu comme ça. C'est se moquer de vous dans ces conditions. Eh bien, notre péché ne doit jamais être un prétexte pour ne pas s'approcher de Dieu. Ah si, dès que tiens, il y a le diable qui nous dit ça. Lui, n'y va pas, se rend compte, Dieu est saint, il va l'être, il va être foudroyé. Hein? Non, on le tira plus tard. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je crois que vraiment, plus nous sentons malade de cette maladie du péché, plus nous sommes blessés, plus nous avons le droit de nous approcher du cœur du Seigneur, car lui seul peut nous guérir. Alors, je termine là, c'est la fin, la conclusion. Comment employer ce temps? Alors, quelquefois, la question ne se pose pas. Au début de la conversion, on est sans arrêt avec le Seigneur, on est sans arrêt en train de lire la Bible, jour et nuit. Alors c'est là, c'est clair que la question ne se pose pas. Hein, comment employer ce temps? Ah, il y a ceux qui sont à la fin de leur course et qui sont là comme ces pères, qui sont là, qui connaissent le Seigneur, celui qui est des commencements, connaissance intime, qui sont là dans une relation particulière. Et j'ai l'exemple de mon grand-oncle, Georges Callan, qui priait tellement. Même dans l'ambulance qu'il emmenait pour la dernière fois à l'hôpital, il priait tout haut pour sa famille, pour ses amis, pour la santé. Donc on a cherché la course. Et puis, il y a ceux qui aiment aussi être cœur à cœur avec Dieu. Alors vous allez peut-être dire que ce sont les idéalistes, ceux-là. Enfin, peu importe. Ils aiment être là dans l'intimité avec leur Dieu. Et puis, il y a quand la question se pose, quand le désir, la bonne volonté montre ses limites. Quand le croyant, quand Dieu plus enflammée par l'amour de mon Seigneur. Alors oui, comment est-ce que je vais pouvoir employer ce temps? Rappelons-nous que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, mais c'est de faire quelque chose dans ma propre vie, dans le secret de mon être, quand je m'approche de lui. La tâche principale de la prière, c'est d'aimer. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord se laisser aimer, accueillir l'amour de notre Dieu, pour pouvoir déverser à notre tour notre amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Je voudrais juste citer un chrétien aussi, si je retrouve cette citation. Finalement, prier, c'est cultiver notre amitié avec Dieu. Or, il n'y a pas d'amitié intime, solide, durable, sans de longs moments passés ensemble pour se parler, écouter, et parfois se taire. Parce que ce dialogue se poursuit et s'intensifie, on finit par aller au-delà de ce moment institutionnel dédié de prière pour continuer cette relation toute la journée, que ce soit en attendant le bus, en marchant dans la rue, en conversant avec une parole, avec une personne, dans la cuisine, au bureau, à l'atelier, dans la voiture. En conclusion, il y a ce David encore qui veut dire « J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans ton intimité, Seigneur, tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment dans une vie. » Qu'est-ce que cela va produire? Cela va produire une envie de partager ce que j'ai vécu avec mon Seigneur, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, de partager avec mes frères et sœurs dans l'Assemblée, pouvoir rayonner de quelque chose de mon Seigneur à mes voisins. Et cela va transformer ma journée. Et chaque journée est une nouvelle journée. Où le défi, c'est de persévérer dans ce moment petit. Je vous propose de finir ce moment en chantant. Alors, c'est dans les reflets.